Aurélien Scholl, La courtisane amoureuse. Paris est la ville où il est le plus difficile de se cacher. Les murs y sont de verre. Jamais autant qu'aujourd'hui, le monde n'a été un théâtre. C'est pourquoi le mariage d'Eliane devait tout à coup le sujet de toutes les conversations. Le vicomte de Breuil a épousé Eliane. C'est un fait accompli. Le mariage s'est fait dans un petit village de Normandie, sans tambour ni trompette, mais avec un maire et un curé. On ne causait que de cela hier au soir, depuis le premier hôtel du Faubourg Saint-Honoré jusqu'au dernier caveau de famille du quartier Saint-Germain. Le scandale est complet. La jeune marquise de V, veuve depuis 2 ans, ne comptait guère sur ce dénouement. Elle-même avait annoncé qu'elle se décidait à prendre un second mari. Et ce second mari était M. de Breuil. Et, les bans déjà publiés, l'ingrat disparaît, épouse une de ses filles sorties d'on ne sait où, et que les bords du lac viennent arriver subitement dans un équipage dont l'origine est aussi mystérieuse que la citrouille de Cendrillon après que la baguette l'a touchée, après que la fée l'a touchée de sa baguette. Comment cela s'est-il fait? Oh, c'est extraordinaire et c'est bien simple. Vous connaissez l'appartement que de Breuil occupé dans la rue du Colisée. Un pavillon au fond d'un petit jardin. Le tapis venait chercher le pied du visiteur au bas de la première marche. Et l'on entrait, on montait sans attendre marcher. Le regard charmé par ces mille riens qui coûte si cher et dont le Breuil avait garni son appartement, avec tant de goût et tant de bonheur. Vitraux gothiques, tableaux, idoles animales, dieux de jaspe, lampadaires de satin, siam, armes de tout pays, craquelés de yoshkoama, fleurs rasées dans des vases plus rares encore que les plantes. Il y avait là un fouillis, une richesse exotique, un contraste de couleurs qui disait que le maître du logis était certainement un artiste et un rêveur. 5 ou 6 jours avant celui qu'elle avait fixé pour le mariage, la jeune veuve eut la curiosité d'aller rendre visite à son fiancé. C'était convenu depuis la veille. Le même jour, le valet de chambre introduisait Eliane dans le pavillon. Eliane avait payé 50 louis la satisfaction de visiter l'appartement de M. de Breuil. Mais celui-ci étant entré presque aussitôt, le valet de chambre eut à peine le temps de la faire entrer dans le fumoir, d'où il se promit de la faire sortir quelques instants après. Eliane était assise sur un divan, rêveuse, préoccupée, qu'elle entendit parler dans la pièce à côté. « Monsieur le baron, disait le domestique, ce monsieur m'a dit en remettant ma carte, qu'il attendrait aussi longtemps que cela serait nécessaire, mais qu'il ne s'en irait pas avant d'avoir parlé à monsieur. » Monsieur Breuil avait pris la carte. Frédéric Yemini, murmura-t-il. « Oh, mais je connais ce nom. Ah, c'est un pianiste hongrois. Oh, un beau talent, s'il paraît. Mais que diable peut-il me vouloir? Faites entrer. » M. Frédéric Yemini fut introduit. « Monsieur, dit-il au baron, je vous prie d'excuser l'étrangeté de ma démarche. Mais j'aime une femme et cette femme vous aime. Et de qui voulez-vous parler, monsieur? De mademoiselle Eliane. Eliane, vous savez qui je veux dire. Ah oui, qui ne la connaît à Paris. Monsieur, je voudrais l'épouser. Épouser Eliane? Ah, ça, mais d'où sortez-vous? Vous connaissez donc pas? Je l'ai vue deux fois. C'est une de trop pour l'adorer. Mais savez-vous ce qu'est Eliane? C'est une jolie femme qui chante fort bien, chez qui j'ai admirablement soupé et dont l'hôtel est délicieux. Sans doute, mais vous êtes, je pense, un honnête homme. Et il vous faut une honnête femme. Le pianiste hongrois parut stupéfait. Mais mademoiselle Eliane, reprit-il, m'a paru une honnête femme. Elle m'a fait boire d'excellents vins. Elle est belle, elle est riche, mais que puis-je demander de plus? Mais l'origine de sa richesse, la connaissez-vous? N'est-ce pas sa famille? Mais pas le moins du monde. Sa richesse vient de tous les hommes, russes, français ou brésiliens, qui, plus ou moins, ont été amoureux d'elle. Ah, fit le Hongrois, je ne savais pas. Mais qu'importe, ce mariage vous déshonorerait. En épousant la créature de ce genre, on prouve qu'on a la main vilie, qu'on renonce à l'estime du monde. Oh, pardon, monsieur de Breuil. Une fille est maîtresse de ses actions, mais une fois mariée, par exemple, c'est différent. Mais pourquoi vous adressez-vous à moi? Mais je vous l'ai dit, parce qu'elle vous aime. Eliane m'aime. À ce point qu'en apprenant votre mariage, elle a mis en vente son hôtel, ses voitures et ses meubles. Elle a juré de vivre dans la retraite la plus absolue. Ne vaut-il pas mieux qu'elle épousât un artiste, un homme qui lui ferait une existence heureuse? Monsieur de Breuil se leva. C'est assez, monsieur. Épousez qui vous voudrez, mais il m'est impossible de m'occuper de votre affaire. On n'épouse pas une courtisane. Retirez-vous. Bien, monsieur, fit Émilie, je m'adresserai à un autre. Et comme il sortait, de Rebreuil entendit remuer dans la manoir. Il ouvrit la porte et aperçut Eliane étendue, sans connaissance, sur le tapis. Il la souleva doucement, et au bout d'un instant, elle ouvrit les yeux. Des yeux noirs, si purs, si étonnés, presque enfantins. Sa pâleur touchante, la douleur de sa physionomie, la supplication de ses deux mains tendues frappèrent de Breuil, qui fut comme ébloui de toute la grâce et de tant de beauté. « Pardonnez-moi, » murmura Eliane. « Mais qu'ai-je à vous pardonner d'être venu ainsi? Mais quand j'ai appris que vous alliez vous marier, que vous étiez perdu pour moi, que voulez-vous? J'étais folle. C'est à peine si vous m'avez parlé deux fois dans votre vie, mais je vous aimais. Tout à l'heure, quand j'ai entendu ce que vous avez dit à cet homme qui est venu, j'ai compris mon irréalisable malheur. Ah, c'est l'insouciance qui m'a jeté à la brune. Orpheline, élevée au hasard, j'ai grandi, sans savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Maintenant, c'est lui, l'amour et la raison m'est instruite trop tard. Je puis au moins me repentir, consacrer ma vie à une idée de charité. Et cette idée sera comme l'arc aux sept couleurs, qui a un pied dans un étang et l'autre dans l'Orient. Votre cœur est le mien. La fortune que vous avez justement flétrie, je n'en garderai rien. Et regardez-moi, monsieur, il me semble que mon repentir a raison d'une valeur. Debray était fortement ému. En face de cette procession inattendue, de cet aveu soudain, il avait peine à refouler les battements de son cœur. Quel homme n'est troublé de se savoir aimé complètement, sans arrière-pensée. Cependant, continua Eliane, vous vous êtes trompé sur un point. Il y a 2 ans que je vous aime uniquement, et depuis 2 ans, j'ai vécu seul. Je tiens à ce que vous le sachiez. Ainsi, j'espère, vous pourrez au moins m'accorder un peu de pitié. Puis, prenant tout à coup un ton enjoué, Eliane s'écria « Ah, je crois que je m'oublie complètement. Je vous gêne. Et vous ne songez pas que je suis de ces femmes avec lesquelles on agit sans façon. Pour commencer, allumez donc un cigare. Ou plutôt, je vais l'allumer pour vous. » Elle prit un cigare entre ses lèvres roses, l'approcha d'une petite lampe à l'esprit de vin qui brûlait sur la cheminée, et après avoir soufflé 2 ou 3 bouffées de tabac, elle porta le cigare aux lèvres de M. Debreuil. Oh, celui-ci s'assit brusquement dans un fauteuil. « Prenez le flacon sur l'étagère, s'écrie-t-il, et versez-moi à boire. » Eliane obéit avec empressement. « Allez chercher mes pantoufles dans ma chambre, » ajouta-t-il. Eliane y courut. « Oh, ôtez-moi mes bottines !» Elle les ôta. Et restant à genoux, elle murmura « Je t'aime, je suis heureuse. » Debreuil reprit « Oh, vous avez une jolie voix, m'a-t-on dit. Mettez-vous au piano et chantez-moi la chanson de Mignon. » Eliane ouvrit le piano et chanta. « Connais-tu le pays où les citrons fleurissent, où l'orange jaunit sous un feuillage vert, où les jours sont de flammes, où les nuits s'attiédissent, où règne le printemps en exilant l'hiver. Ces 2 pays où croît le myrte solitaire, où le laurier grandit dans un air embaumé. Dis-moi, les connais-tu? Non, eh bien, c'est la terre où je veux aller vivre avec toi, bien-aimée. » Et à peine Eliane commençait le second couplet. « Connais-tu la maison où s'ouvrit ma paupière ?»« Monsieur, » dit le valet de chambre, « c'est madame la marquise. Viens, emmène Eliane et renferme-la dans ma chambre, là-haut. Puis tu feras entrer la marquise. » Eliane devint très pâle et obéit. « Oh, mais c'est une odeur impossible !» s'écria la jeune veuve en entrant. « On ne reçoit pas sa fiancée dans un nuage de fumée. Vous savez, cher ami, que si l'envie de fumer vous prend quand vous serez mon heureux époux, vous irez la passer dans ce raccourt. Mais trop heureux de vous obéir, madame. »« Oh, mais que vois-je? Vous êtes en pantoufles. Oh, je vous prie de m'excuser, dit Marvoy. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à ma chambre à votre coup de sonnette et voir rentrer ici. Seriez-vous mal élevé? Bon, je me corrigerai. Tiens, le piano est ouvert. Oui, dit le breuil, je l'ai ouvert à votre intention. C'est vous ce que voudriez faire, marquise? Non, dites-le. Mais vous seriez mille fois aimable de me chanter cet air espagnol que vous dites si bien. Non, je ne suis pas en train. Et si je vous suppliais? Mais quand j'ai dit non, c'est non. Et puisque nous causons, autant pousser la franchise jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a des maris qui ne quittent jamais leur femme et d'autres qui les laissent toujours seules. Oui, je l'ai entendu dire. Eh bien, mon cher Le Breuil, il faudra n'être ni des uns ni des autres. C'est-à-dire vous accompagner. Quand cela me plaira. Et rester à la maison. Quand je vous le demanderai. Le Breuil fit la grimace. Est-ce tout ? Demanda-t-il. Non, pas tout à fait. Il paraît que vous habitez la campagne une partie de l'année. Oui, 3 mois au bord de la mer, dans un vieux fief de famille. C'est cela. Apprenez donc que j'ai horreur de la campagne, de la mer et des vieux châteaux. De Breuil se leva. Oh, vous êtes mal disposée aujourd'hui, madame. Monsieur, je suis comme tous les jours, et vous? Moi, j'éprouve un je ne sais quoi qui n'est pas ordinaire. Ah, bien. Alors, une autre fois. À une autre fois, madame. Et la jeune veuve sortit. De Breuil s'élança vers l'escalier et appela « Eliane, Eliane !» Eliane descendit aussitôt. « Aimes-tu la mer et les vieux châteaux ?»« Oh, toute seule ?»« Non, avec moi. »« Oh, ce serait le bonheur. »« Eh bien, nous partons ce soir pour la Normandie. Je t'épouse !» Qui fut étonné quelques jours après ? Ce fut Frédéric Emini, le pianiste hongrois.